jeudi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Une émission concoctée par Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va, et vous, dans quel mood êtes-vous aujourd'hui?
Ah bah là, je suis dans plein de moods différents, là, puisqu'aujourd'hui, on va parler de Food Moods. C'est le titre du livre de notre invité, Noémie Bourrier. Food Moods, 5 ambiances et 80 recettes. Et donc, attendez, je vais couper le sifflet à mon ordinateur qui fait des petits bruits. C'est un livre de cuisine, donc, écrit par Noémie Bourrier, notre invité du jour, qui en fait propose des recettes par rapport à l'humeur. Voilà. Donc il y a plusieurs types d'humeurs, hein. Il y a la flemme, il y a les dîners entre amis, enfin voilà, il y a 5 humeurs, elle va nous expliquer un petit peu.
Il y en a une pour vous, c'est je vais à la salle par exemple, c'est un peu vous Manu.
Ah ben totalement, vous me connaissez bien Philippe.
Le dernier chapitre, ouais. Bonjour messieurs.
Bonjour
Noémie. Bonjour Noémie.
Alors je coune Noémie.
Alors Noémie Bourrier, à la base, elle est styliste culinaire, hein, Noémie, c'est
oui,
ça.
Tout voilà. À fait, ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà,
non.
Styliste culinaire?
Ah bah oui, c'est quelqu'un qui s'occupe de la, comment dire, c'est la directrice artistique des photos food.
C'est ça.
C'est celle qui pimpe les hamburgers des campagnes de publicité de McDo pour qu'ils soient super beaux, c'est ça?
Ouais, qui met les taches de sauce au bon endroit.
On a souvent, oui, cette idée-là justement du styliste qui agit sur les burgers qui, franchement, ne sont pas des photos très contractuelles. Ouais. On se retrouve avec des trucs qui font rêver, on n'a pas la même chose dans la boîte. Et ouais, là où le styliste culinaire, c'est la personne qui met en valeur les plats pour que la photo prise soit belle et appétante.
Et c'est un travail très important, hein, parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas des stylistes culinaires que pour les photos de McDo, hein, il y en a aussi dans tous les magazines féminins, par exemple, qui ont des rubriques cuisine, pour les livres de cuisine aussi.
On maquille en fait les plats, c'est ça?
C'est ça, en fait, dès qu'on prend un plat en photo, d'ailleurs, je pense qu'on le voit tous avec nos téléphones, c'est qu'en fait, on peut faire une photo, si on ne touche pas du tout au plat, il ne va pas forcément être aussi appétant que ce qu'on aimerait qu'il soit.
Mmh. On dit appétant, c'est ça?
Alors, je ne sais pas, moi, ça me sort là comme ça, naturellement.
Oui, il y a l'appétence, oui. Mais c'est l'appétence, oui.
On dit pas appétissant.
Bah si aussi.
Je sais pas.
Je suis remise en
doute. S'il y a un auditeur qui connaît, vous pouvez nous appeler pour savoir si on dit appétant ou appétissant.
01 53 48 3000. Ou si vous avez des questions à poser aussi à notre invité. Hein.
Mais ouais, pour que ça donne envie, quoi. Mm. Pour que la photo donne envie, il y a toujours un petit travail à faire dessus, en amont, en tout cas. Mm.
Et alors, comme vous le voyez, Noémie Bourrier, elle a une voix très radiophonique, ce qui tombe plutôt bien, parce qu'elle fait aussi des podcasts culinaires qui s'appellent Métropole Hit.
Exactement.
J'aime bien le nom. Métropolite. Voilà. Et donc,
c'est en un seul mot. Hein.
Oui, c'est en un seul mot.
Ça passe pas à la radio, mais.
Métropolite.
Métropolite, ouais. Avec E-A-T à la fin, qui veut dire manger en anglais. Donc voilà, c'est un podcast sur les nourritures du monde.
Voilà, des grandes métropoles ou des pays étrangers. Vous rencontrez des foodies de toutes les nationalités, oui. Qui vous font découvrir les spécialités de leur pays d'origine. Et puis, dans certains podcasts, un restaurant en rapport avec l'émission. Donc,
Exactement, parce que moi, je me suis dit, par exemple, nous, on est dans une grande métropole. On est à Paris ou dans la région parisienne. On a des restaurants du monde entier. Mais si on veut vraiment manger une vraie bonne nourriture, on va dire italienne, par exemple, ben, en fait, moi, je demande à un pote italien, quoi. Parce que sinon, je trouve que les curseurs, ils sont difficiles à trouver. Et en partant de ce principe-là, je me suis dit, bah, en fait, je vais peut-être en faire un podcast, parce que finalement, ça peut intéresser tout le monde de savoir qu'est-ce que c'est vraiment pour quelqu'un qui a, par exemple, qui est né et qui a grandi au Portugal, à Hong Kong, au Mexique. Qu'est-ce que c'est, lui, la nourriture de son enfance, de sa famille, etc. Et à chaque fois, ça amène d'ailleurs des bons cassages de clichés ou des bonnes... On enlève un peu les idées reçues et on se plonge vraiment dans le quotidien de quelqu'un qui est originaire du pays en question. C'est hyper intéressant.
Oui, puis c'est assez fouillé parce que vos podcasts durent 35, 45, voire même 50 minutes parfois. Ouais. Donc, il y a de la matière, on va dire.
J'ai du mal à les couper, ouais. Je préfère un petit peu que ce soit un peu fleuve, du coup, quitte à ce que ce soit peut-être un peu trop long, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, ouais, c'est une... toujours une bonne discussion.
Oh, quand ça se mange, c'est jamais trop long.
C'est vrai.
Là, Manu, je vous laisse responsable de tout ce que vous direz.
Pourquoi?
Bien, alors, moi, dans votre livre, il y a beaucoup de Madeleine de Proust et des Madeleine de Proust de la cantine.
Oui, c'est vrai, il y a tout un chapitre.
Voilà, et vous, tous ces plats qu'on a connus, qui étaient quand même dans leur version industrielle, vous les rendez faits maison.
Exactement, ouais, ça c'est le, dans le chapitre 2, en fait, j'ai un chapitre qui s'appelle « Back to school ». Encore une fois, il y a pas mal de, d'anglais dans mon livre, je ne sais pas si, si les auditeurs apprécieront forcément, mais moi je suis, j'ai baigné dans une culture où il y avait beaucoup d'anglais dans ma vie.
Ça fait partie du mood.
Ça fait partie du mood, exactement. Et donc dans ce chapitre « Back to school », on retourne vraiment un peu à l'école et au plaisir d'enfance. Et en effet, j'ai voulu rendre, j'ai voulu redonner un peu ces lettres de noblesse à des cordons bleus, des spaghettis boulettes,
le gratin de chou-fleur,
le ravioli,
le gratin de ravioli, qui ne l'a pas eu,
les chicken tenders maison,
ouais, les nuggets aussi, ouais,
le sundae caramel meilleur que chez Ronald.
Ouais, mais c'est là qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération, parce que notre génération ne mangeait pas de nuggets. C'est arrivé après les nuggets.
Oui, c'est arrivé avec McDonald's.
Qu'est-ce que vous mangez à la cantine, vous? Si vous alliez à la cantine,
betterave, salsifis, céleri rémoulade,
carottes râpées, œufs maillots.
Voilà, c'est exactement pour ça que je n'y mangeais pas, parce que j'aime toutes ces choses-là, mais à la cantine, elles sont très mal faites.
Elles sont bonnes dans les bouillons.
Oui.
Dans les restaurants qui font les bons classiques français. Quoi.
Ouais, alors on parle des vrais bouillons, attention.
Des vrais bouillons, tout à fait.
Il y a un nouveau slogan, d'ailleurs, chez les bouillons Chartier, c'est... attendez. Oh, ça va me revenir.
Si ça vous revient avant 13h,
Va me revenir.
C'est le plus important.
Alors, c'est du genre n'est de vrai bouillon que Chartier ou n'est vrai bouillon que Chartier, parce que c'est vrai, effectivement le vrai bouillon. Et d'ailleurs, il y a un troisième bouillon Chartier qui va ouvrir là.
Ah, c'est vrai?
Absolument.
J'ai testé celui du Montparnasse là il n'y a pas longtemps.
Eh oui, l'ancien Montparnasse 1900, c'est quand même le meilleur, le bouillon Chartier.
Et le cadre est super.
C'est vrai, le cadre est très.
Et d'origine.
En plus.
Parce qu'il y a des bouillons qui sont un peu en carton-pâte, décor.
Qui ont repris les bases de l'art déco. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, du coup, je remets un peu à l'honneur ces petits plats de la cantine ou du plaisir familial de la table. Voilà, moi, ma mère, elle nous a beaucoup fait des gratins de ravioli, mais vous savez, avec la grosse boîte Buitoni, le format familial, bam! Une couche
avec
de râpé indus.
Le paquet des mentales râpées par-dessus.
Ouais. Voilà, donc là, j'en propose une version, on va dire, un petit peu plus maison, bien que je ne me lance pas dans la confection des raviolis, parce que mon livre, en fait, je le veux vraiment orienter cuisine du quotidien. Cuisine simple, accessible. Et pour moi, c'est ça la cuisine, en fait. Ça ne doit pas être clivant, ça doit être un acte du quotidien. Et j'ai imaginé un peu ce livre comme une petite... un livre vraiment de chevet, quoi. Ouais. Pas de chevet, du coup, de... Comment on dit ? De plan de travail.
De plan de travail, voilà. Alors, d'ailleurs, il est d'un format justement pratique pour cuisiner, parce que souvent les livres de cuisine ne sont pas d'un format très très pratique pour l'avoir dans la cuisine. Alors, justement, parlons de ces fameux moods, ces humeurs, puisque votre livre c'est Food Moods, donc c'est la nourriture selon l'humeur, on pourrait le traduire comme ça. Donc il y a cinq moods, cinq humeurs, alors qui sont la flemme, avec plein de E, c'est la flemme.
La flemme.
Back to school, donc ça c'est un petit
spécial dédicace à Céline si elle nous écoute.
Voilà.
Ah oui. On est tous flemmards un peu quand même.
Mais c'est Céline, c'est pas Céline Dion.
Non, c'est vrai, Céline Kitt. Céline Kitt.
D'accord.
Une influenceuse food.
Oui, elle chante quand
elle chante. Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Je vais suivre ça alors.
Non, il faut absolument.
Ah oui.
Okay. Ah, c'est
vous
un personnage. C'est la Castafiore de la cuisine.
Ok.
Je vous laisse ma part. Et back to school.
Donc back to school, il
y a donc voyage.
Oui. Ça, c'est en rapport pas mal à mon podcast. Du coup, en fait, c'est pour un peu mettre sur papier des plats authentiques, vraiment authentiques, les replacer un peu dans leur contexte, donc par rapport à la ville ou le pays où ils ont été créés, et en proposer une recette à faire chez soi.
Mais alors, il y a juste un truc sur lequel je suis pas d'accord avec vous dans Voyage, c'est le koubidé iranien. Le koubidé iranien que vous faites avec du bœuf.
Ouais.
Mais en Iran, quand on dit koubidé, c'est de l'agneau.
D'accord, c'est bien, vous voyez, comme ça il faut aussi remettre carte sur table, les points sur...
Non, mais le koubidé, c'est vrai que c'est à la base une brochette de viande hachée, mais quand on ne précise pas, en général c'est plutôt de l'agneau. Mais c'est très bon avec du bœuf aussi.
C'est comme le mafé, hein.
Le mafé, oui, ça peut être du poulet, ça peut être...
Mais c'est de l'agneau.
Si on précise pas...
C'est de l'agneau, le mafé.
Ça peut se prêter à plusieurs...
Au Sénégal, oui. Au Sénégal, oui, mais après, si on va plutôt dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ça peut être le poulet en priorité pour le mafé.
Mais c'est vrai que le koubidé, typiquement, par exemple, je l'avais tenu du monsieur que j'avais interviewé sur mon épisode sur l'Iran, qui je crois était l'un des premiers épisodes du podcast. Et lui m'avait dit, c'est vrai que moi, par praticité, je le fais avec du bœuf, mais en effet, ça peut être, enfin, c'est agneau traditionnellement. Ouais.
Ouais, non, mais c'était pas une critique non plus.
Mais hein. C'est bon en tout cas.
C'était pas une critique, mais comme je suis un amateur de koubidé,
c'est trop bon.
Et de djoudjé aussi, qui est un autre plat iranien délicieux avec du coquelet mariné au safran, et grillé au feu de bois, ça c'est magnifique. Mmh. Alors autre mood, je vais à la salle, donc ça c'est de la cuisine healthy.
C'est de la cuisine un peu plus healthy. En fait, c'est le dernier chapitre du livre, donc c'est le cinquième mood. Et c'est, on va dire, un petit peu pour faire la balance, l'équilibre avec tous les plats d'avant des quatre chapitres précédents où on se fait bien, bien plaisir. Et le chapitre, je vais à la salle, en vrai, il y a quand même des recettes sympas qui sont goûtues et tout, mais qui sont, voilà, un petit peu moins riches que toutes mes autres recettes.
Et puis un chapitre que je n'ai pas cité puisque je ne les ai pas cités dans l'ordre du livre apparemment, c'est Come Together. Donc là, c'est on invite les copains, quoi.
C'est ça. Et en fait, c'est comment nourrir une grande tablée. Alors, ça peut être soit, par exemple, les apéros dînatoires où on ne va pas forcément faire de vraie cuisine, mais il faut quand même assez de petites choses pour combler tout le monde, ou vraiment la tablée un peu familiale ou copinale pour faire à manger à plusieurs personnes, au moins 6 ou 8.
Ouais, et comment nourrir tout le monde sans passer sa soirée en cuisine.
Exactement.
Hein, pendant que les gens attendent dans la salle à manger.
Ouais, exactement.
Alors, le truc qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs entrées sur chacune de vos moods, parce qu'à chaque fois, vous mettez une playlist et une watchlist.
Ouais.
Donc, la playlist, c'est les musiques qui vont avec, donc
exactement,
qui vont avec l'humeur en question. Et une watchlist, alors c'est très varié. Hein, c'est quoi? C'est vos Madeleines de Proust en termes de musique et de films?
Ouais, exactement. En fait, c'est un peu... parce que moi, je cuisine pas mal en musique. Je cuisine en musique et en podcast, et j'aime bien... Je me suis dit, si je fais un livre sur un peu la cuisine selon les humeurs, je trouve que la musique, ça joue beaucoup, ça nous amène dans un mood ou dans une humeur. Donc j'ai voulu lier plusieurs musiques à chaque chapitre. Et pour la watchlist, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas pour vous, mais je suis un peu partie du constat que maintenant, on mange beaucoup devant un écran. Quand on est tout seul ou peut-être à deux, en couple, en coloc ou entre amis, on va quand même être tenté de se regarder un petit film sur des plateformes des choses qu'on a avec soi. Et donc, j'ai des films aussi qui vont avec chacun de mes moods. Mmh. Donc, je donne beaucoup de ma personne.
Bah oui, je vois ça. Alors, et pour le premier mood, donc la flemme avec 50 E, la playlist, c'est très urbain, R&B, R. Kelly, Usher, Kellys, Lauryn Hill, Destiny Child... etc.
Ça, c'est mes basiques. Je suis pas abonnée à des plateformes de musique, mais j'ai un vieux iTouch, un vieux lecteur MP3, et du coup, il est resté bloqué au début des années 2000.
C'est ça.
Et donc, c'est toujours mon mood, quoi.
Voilà, alors la watchlist, c'est plus varié. Pas mal de trucs des années 80, 90. Alors, soit vous ne faites pas votre âge, soit vous êtes allé regarder des trucs un peu anciens, c'est ça?
Je suis un peu nostalgique, ouais. Je trouve que, par exemple, pour le chapitre de la flemme, j'ai voulu vraiment donner une watchlist de films un peu valeur refuge, valeur sûre, où je me dis, je suis sûre que ces titres-là, je les mets... Normalement, ça fait l'unanimité, quoi. C'est des vrais bons films.
Ouais, ça fait dimanche après-midi sous la couette, quoi.
Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, complètement.
Exactement.
Alors, quel type de... Alors, par exemple, justement, pour ce mood, la flemme, quel type de recette on va trouver? C'est quoi vos préférés quand vous avez la flemme? Parce que, bon, je vais en citer quelques-unes. Hein. Il y a les brioches perdues, le croissant sandwich, les frittata poivron fromage. Alors, la flemme, on s'attend à ce que ce soit des recettes simples. On ouvre deux boîtes et on met trois tours de cuillère ou de fourchette et c'est prêt. Non, il y a quand même un petit peu de cuisine, mais on ne se prend pas la tête, quoi.
Voilà. En fait, il y a un peu de cuisine. On ne se prend pas la tête. Souvent, c'est quand même... je donne des vraies indications sur les proportions d'ingrédients, mais c'est des recettes que je trouve on peut faire à sa sauce. On peut vraiment se les réapproprier, mettre plus ou moins de ce qu'on veut. Et c'est quand même, les ingrédients en l'occurrence vont être des basiques du frigo ou du placard. Ça va pas être des recettes où on va devoir aller chercher des épices dans une épicerie particulière, de la viande par exemple fraîche découpée d'une certaine façon de son boucher. C'est vraiment les recettes où voilà, on va pas se mentir, c'est pas la honte d'aller au supermarché.
On a un vieux fond de blé qu'on n'arrive pas à terminer et hop.
Exactement.
Alors justement, vous savez qu'on a un point commun, Noémie. c'est le paquet de blé qui passe des mois dans le placard et on ne sait jamais quoi en faire.
Non, mais c'est clair.
Et là, vous proposez un blézotto aux champignons.
Exactement.
Que je vais m'empresser d'essayer avec mes deux paquets de blé qui sont dans mon placard. Et non, c'est vrai que c'est
alors, le blézotto pour tout le monde, c'est...
Alors, le blézotto, c'est en fait les règles de cuisson du risotto, donc vraiment de cuire du riz rond dans un bouillon, mais attribué au blé, qui justement, est la céréale, comme je le dis dans le livre, et comme c'est votre cas aussi.
On en a toujours, mais on ne le cuisine jamais.
Ouais, c'est ça, ouais. On ne cuisine pas tellement de blé. Ou bien, moi, je sais que ma maman, elle m'en faisait quand on était petit, c'était le truc un peu ébli, facile à faire et tout. Et pour moi, c'est une bonne recette de flemme, parce que ça change du riz, ça change des pâtes, et on va le cuire avec un bouillon, on va mettre un peu ce qu'on a dans le frigo dedans, et voilà.
Mais d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, les influenceuses food, quand elles donnent des recettes à base de blé, elles ne parlent pas de blé, hein. Elles disent c'est ma recette du ébli aux asperges, ou des trucs comme ça. Hein.
Ouais, la marque, ouais.
La marque a remplacé le mot, ouais. Non, c'est vrai, il y a des entités comme ça. Mais voilà, les recettes de la flemme, c'est vraiment faire un minimum de cuisine quand même, mais sans trop d'efforts, et puis pour manger autre chose que juste des pâtes au beurre.
Ouais, puis il y a des recettes, justement, vous parlez de pâtes, il y a justement une recette de pâtes qui n'en est pas vraiment une, mm-hmm. Je fais une liaison qui n'existait pas.
C'est un mammonisme, ça.
Les pâtes de fond de placard.
Oui, c'est vrai. Ouais, alors ça,
donc ça, c'est open comme recette.
Ça, c'est open bar. C'est-à-dire que moi, dans mon placard, je vais quand même souvent avoir, vous savez, du poisson en conserve. Alors ça peut être du maquereau, du thon,
du
des
saumon,
sardines,
ouais.
Voilà.
Elle va nous faire les pâtes au thon.
Non, et justement, on y est presque.
Non, je vous cherche. Exprès.
Mais en vrai, oui, c'est plutôt en fait reprendre des vrais, vrais basiques de la flemme du style les pâtes au thon, mais aller les pimper avec des trucs un petit peu sympas. Et par exemple, les pâtes de fond de placard, il y a aussi un truc un peu intéressant, c'est que quand je les ai imaginées, j'ai pensé à une copine sicilienne que j'avais aussi interviewée pour le podcast, mais c'est un épisode qui n'est pas encore sorti. Et en Sicile, en fait, il y a beaucoup cette attribution de la chapelure de pain ou du crouton incorporé à la sauce. Et en fait, on peut tous avoir une tranche de pain. Voilà,
alors ça, c'est typiquement calabrais. Quand on parle des spaghettis calabrais, c'est avec effectivement des aubergines et du pain grillé émietté sur les pâtes. Ça, c'est délicieux.
Et c'est quand on a une petite tranche rassis qui traîne, une petite biscotte qui traîne, et c'est très sympa.
C'est magnifique.
Ça ajoute du petit craquant qui est bon.
Et on continue à cuisiner selon votre humeur ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et vous êtes in the mood aujourd'hui, Manu.
Absolument, in the mood, avec les Food Moods de Noémie Bourrier. C'est le titre de son livre, hein, Food Moods, 5 ambiances pour 80 recettes aux éditions Webedia. Donc un livre qui vient de sortir. Noémie Bourrier, elle est également styliste culinaire et elle a également des podcasts depuis 2019, qui s'appelle Métropole Hit, où là on voyage autour du monde un petit peu avec les invités de son podcast qui sont tous originaires de pays où la gastronomie est presque une religion et on apprend plein de choses sur ces podcasts.
Exactement, merci pour ce beau résumé.
Mais écoutez, je vous en prie.
C'est un roller coaster culinaire.
Un roller coaster.
C'est quoi un roller coaster?
Un roller coaster, c'est les grandes attractions, les grands 8.
Ça monte et ça descend.
C'est ça. Comme les roller coasters d'émotion, quand on lit un bon livre, pareil.
Vous êtes obsédé par la nourriture?
Ah, je pense qu'on peut dire ça, ouais.
Vous êtes obsédé par la nourriture depuis toujours.
Ouais.
Donc le matin, vous faites partie de ces gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir manger à midi.
Oui, j'y pense même la veille.
Ah oui.
Et je me souviens d'ailleurs, c'est drôle que vous dites ça parce que j'ai un petit souvenir d'enfance avec ma maman quand elle venait me chercher en dernière section de maternelle. Donc je sais pas quel âge on a, mais on doit avoir 5 piges.
Vous lui demandiez qu'est-ce qu'on mange?
Je lui demandais qu'est-ce qu'on allait manger ce soir. Et un jour, parce que ma mère est pas une grande passionnée de bouffe pour le coup, et un soir, elle a fini par me dire, mais Noémie, mais tu me demandes tout le temps ça, comme si c'était vraiment une obsession, quoi. C'est le cas de le dire. Et oui, je suis une grosse food addict.
Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez commencé par aimer manger. Et à quel moment est-ce que vous êtes passé de l'autre côté de l'assiette?
Alors en fait, je crois que j'ai commencé à cuisiner donc dans la cuisine de mes parents, qui était en fait la plus grande pièce de la maison. La cuisine pour nous, c'était comme le salon quasiment, c'est là où on se rassemblait. Et donc très vite, j'ai commencé à cuisiner, peut-être à l'âge de 8-9 ans, j'ai dû commencer à faire mes premiers desserts, c'était plutôt du sucré.
On était avant la mode des émissions de télévision sur la cuisine, aujourd'hui ça paraît évident.
Ouais, c'est ça. Moi je regardais Bon Appétit bien sûr avec ma grand-mère.
Ouais, effectivement.
Avec Joël.
Ouais.
Avec d'où le parmentier de canard alors.
D'où plein de recettes, mais oui, qui m'a forcément inspiré, inconsciemment ou non.
Produit et réalisé par Guy Job, hein, Philippe, quand même.
Moi, j'adorais cette émission.
Bon Appétit, bien sûr.
C'était bien fait, on avait les ingrédients à la fin, avec ma grand-mère, on les notait et tout. Hein.
Ah, vous reproduisiez les recettes?
En fait, on les reproduisait pas tant, je pense que c'était plus pour le plaisir d'avoir regardé et de se dire, ah, peut-être qu'on pourrait le faire. Et puis, en fait, on passait pas forcément à l'acte, parce qu'elle, elle avait ses propres recettes. Après, voilà, c'était une mama italienne, donc elle avait ses recettes bien à elle, mais ouais, j'ai toujours... Il y a toujours
une connexion. Votre recette de spaghetti boulette, c'est la recette de la mama italienne?
Oui, alors ouais. C'est un peu une fusion, parce ouais. qu'elle, elle faisait pas mal de pâtes, mais alors elle faisait beaucoup de sauce tomate avec de la chair à saucisse. Elle faisait bien sûr des pizzas. Et après, il faut savoir après qu'elle elle est arrivée assez jeune en France, en Normandie, et elle a épousé mon grand-père qui était boucher charcutier.
D'accord.
Donc il y a une très forte présence de la viande dans ma famille, et dans mon livre, il y a une assez forte aussi présence de la viande. Donc ça
vous n'êtes pas végane, quoi.
Non, je ne suis pas végane. Je propose quelques petites recettes véganes dans le dernier chapitre.
C'est pour ça le mafé de légumes, vous voyez.
Mais moi, je trouve que le mafé, ça se prête bien à l'absence de viande. Enfin, je trouve que l'arachide est déjà tellement riche
en lui-même.
Présente. Ouais. J'aime bien le mafé pour le coup végétarien, vegan d'ailleurs en l'occurrence. Mais sinon, la viande.
Il y a quelques recettes véganes.
Il y a quelques recettes véganes. Amis véganes, il y en a pour vous.
Ouais. C'est pour ça que Manu est calme.
Ah, mais moi, je suis végane plus.
Ouais.
Avec viande.
Moi, je suis végane avec viande.
Par exemple, ce matin, comment est-ce que vous avez répondu à la question « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?»
Alors, ce matin, typiquement, je me suis dit que j'avais rendez-vous avec des copines suite à l'émission. Et on va aller dans un lieu, en l'occurrence, c'est pas moi qui vais cuisiner. Donc, je vais plutôt me poser la question peut-être pour demain.
Alors, le dimanche, il y a un rituel ou
Ouais, le dimanche, j'ai un petit rituel, mais je sais pas si vous avez vu ça peut-être sur mon compte Instagram. C'est Noémie Bourrier, donc prénom et nom. Et en fait, j'aime bien me consacrer à ce que j'appelle les recettes de Rosta. C'est un rendez-vous que je fais toutes les deux semaines à peu près. Alors pourquoi recettes de Rosta? Parce que je vais piocher dans des livres de recettes de stars un peu improbables par rapport au milieu de la cuisine, j'entends. C'est-à-dire que ça va être Snoop Dogg, Michelle Obama, Sarah Michelle Gellar, qui était la fameuse actrice de Buffy contre les vampires. Encore une fois, je pioche
parce
un peu dans mes références.
C'est marrant parce que vous parlez de Snoop Dogg, mais nous
c'est votre dernière publication, d'ailleurs.
On aurait dit
les cookies de Snoop Dogg, là.
Ouais.
On aurait dit Joey Starr en France.
Oui, bien
parce
sûr.
Que lui, il vient de lancer
un magazine culinaire. Ouais.
Mais en fait, il faut savoir que outre-Atlantique, énormément de restas font des livres de cuisine.
Bon, enfin, de toute façon, Snoop Dogg, il a fait un super succès avec son émission avec Martha Stewart, qui est la reine mondiale l'inventeuse même du living.
Ouais. Donc. Mais saviez-vous que avant lui, par exemple, le rappeur Coolio a fait un livre de recettes également. Il avait même une émission d'ailleurs culinaire, mais qui avait une moins grande ampleur. Et même pour aller plus loin, il y a Oprah Winfrey aussi. J'ai testé une très très bonne soupe de son livre de cuisine. Et même j'ai un peu.
Elle est à quoi la soupe d'Oprah?
La soupe d'Oprah.
Il doit y avoir des courges,
c'est
non?
C'est un velouté de maïs. C'est très très bon. C'est ce qu'elle appelle une corn chowder.
Ah, c'est de la soul food.
Ouais. C'est excellent. Et il y a des petits, il y a de la petite patate douce. Enfin non, c'est hyper bon. Et en fait, jusqu'à présent, tous les livres de restas, les livres de recettes que j'ai trouvés, c'est toujours des bonnes surprises. Par contre, il y a eu un énorme fail il y a deux semaines justement. Je suis allée piocher dans les recettes d'Hélène Segarra.
Oh mon Dieu.
Catastrophique.
Elle a fait un livre, oui.
Catastrophique. Ouais. Elle a fait un livre
qui s'est bien vendu d'ailleurs en plus.
Ouais. Elle a fait un livre avec, je ne sais pas si je peux citer cette marque, mais de
Weight Watchers.
Voilà, Weight Watchers qui surveille son poids.
Et donc chez nous, vous pouvez. Hein.
Okay. Et bah voilà, Hélène Segarra a proposé un banana bread qui n'est ni fait ni à faire. Donc c'est aussi ça les recettes de Rosta.
Parce que vous, le banana bread, c'est une de vos valeurs sûres.
Oui.
Ça, il faut le dire.
Tout à fait.
Mais vous qui êtes styliste culinaire, vous devez savoir quand même que la plupart des recettes qui paraissent dans les magazines féminins ou dans les livres de recettes n'ont jamais été testées.
Et bah. En fait, je l'ai un peu découvert quand justement moi j'ai.
Ça a un peu changé Manu quand même aujourd'hui.
Bah, ça a un petit peu changé parce qu'à force, de recevoir des lettres de réclamation, genre votre recette elle marche pas, c'est n'importe quoi, etc. Bon, il y a peut-être eu un petit peu d'amélioration là-dedans.
Moi, par exemple, Manu, quelque chose, une référence qu'on cite souvent, ce sont les fiches cuisine L.
Absolument.
Qu'on trouvait en. Vous savez, les fameuses 4 fiches là qu'on trouvait en.
J'en profite pour saluer mon amie Elisabeth Scotto, d'ailleurs.
Mais elles étaient faisables.
Mmh. Bah, bien sûr. Ah bah, elles ont toujours été faisables.
Elles étaient testées. Elles étaient testées et approuvées, je pense. Parce que moi, j'ai fait quelques recettes, justement, avec ma fameuse grand-mère, et ça marchait à chaque fois.
Les fiches cuisine, ça existe depuis la fin des années 60. Et ça, ce ne sont que des recettes. Plus récemment, c'était Elisabeth Scotto, qui est partie faire d'autres choses aujourd'hui, qui n'est plus à elle, mais qui est restée peut-être 25 ou 30 ans chez elle et qui s'occupait des fiches cuisine. Elle testait toutes les recettes. Et c'est vrai que toutes les fiches cuisine. Alors maintenant, ils font souvent des recettes de chef.
Ouais, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est absolument essentiel de tester et retester ces recettes avant de les proposer. Après, ce que je dis aussi dans le livre et même aux gens qui m'en parlent, pour moi, j'ai fait un livre de cuisine, mais chacun doit l'adapter à sa sauce. De toute façon, on change toujours un peu les recettes à sa façon. Mais moi, j'ai tout testé avant, quoi.
Mais ça sent, alors, franchement.
Non, franchement, pour moi, c'est une question de respect, quoi.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté, d'ailleurs, aujourd'hui ?
J'ai apporté mon dessert, franchement, ultime, celui que j'adore faire et qui se fait en 3 coups de cuillère, c'est le brownie. Vraiment le brownie.
Enfin, pour vous, c'est 3 coups de cuillère.
Pour moi, ouais, peut-être parce que maintenant j'ai la gimmick et tout, mais
la brownie touch.
Je me suis dit, je peux pas venir les mains vides. On va parler de cuisine,
c'est pas un décor, c'est pas un fake. Hein.
Ah non, c'est pas un fake. Hein. Et d'ailleurs, la photo n'est pas si loin.
Ouais, je suis d'accord. Il ressemble.
Je vais montrer les deux.
Il est pas trop pimpé.
En fait, la particularité de ce brownie, parce qu'on va pas se mentir, il y a une grosse dose de sucre dedans. Mmh. Il y a une belle dose de sucre dedans et c'est ce qui va créer en fait cette petite.
Ah, ça y est, j'ai un SMS de mon médecin là, direct.
Ah. Mais ouais, c'est ça, faut faire attention. Après, faut se faire plaisir aussi, hein. Mais là, on est sur de la pure recette américaine. Donc, on est dans le chapitre 4 sur le voyage. Mais ça pourrait aussi être presque une recette de flemme. Et vraiment, c'est d'une simplicité sans nom. Et pour moi, c'est vraiment un gâteau doudou. C'est un gâteau réconfort, le brownie. Mmh.
Bah, ça a l'air réconfort aussi. Là, j'étais en train de voir le poulet à la cubaine de Christina Milian.
Très bon.
C'est très, très soul food aussi.
Elle, par exemple, j'adore l'une de ses chansons éponymes qui a rythmé ma jeunesse. Et par exemple, Christina Milian, elle n'en est pas encore à avoir fait un livre, mais elle fait beaucoup, beaucoup de partages de recettes sur Instagram, parce que Instagram est aussi un vrai réseau de partage, et notamment les stars qui, au même titre que des gens comme vous et moi, ont des comptes Instagram, ils font la cuisine, ils partagent leurs recettes. Mais celui que j'attends avec grande impatience, c'est Rihanna, normalement, qui est sur le projet d'un livre de cuisine.
Mais est-ce que Rihanna...
J'attends.
Mais la question, c'est est-ce que quand on est une resta, comme vous dites, est-ce qu'on sait cuisiner ?
Moi, je pense qu'on continue... C'est quand même l'un des rares plaisirs, quoi, qu'on continue peut-être à garder. Après, j'imagine qu'ils ont des chefs, des personnes à domicile, mais moi, je veux en tout cas croire encore au fait qu'il cuisine. Il et elle cuisinent.
Bon, parce que j'ai envie de dire que quand j'ai testé des restaurants ouverts par des stars, on n'était pas toujours au top du top, quoi.
Oh, t'as testé quoi, par exemple ?
Oh, j'ai plus de souvenirs précis, mais ça m'a pas laissé.
C'est Eminem qui a ouvert un.
Ah non, alors moi je suis vraiment très, je suis vraiment plutôt à Paris, mais c'est vrai que. Alors que non, il y avait des stars dans les années 70, 80. Stéphane Collaro avait un restaurant qui était très bon.
Ok.
Boal.
Elle dit oui, mais vous savez qui est.
Je vois qui c'est.
Oui, d'accord, parce que
je ne saurais pas.
Vous êtes bien jeune pour avoir connu.
On pouvait manger jusqu'à 5h du matin.
Ouais, mais Johnny Hallyday a eu plein de restaurants.
Ah bon ?
Oui.
Ah oui, plein.
C'est vrai ? Ouais.
Bah, nous avons dîné dans son restaurant, puisque c'est chez Madame Lee.
Oui, mais qui était plus tenu par Johnny.
Non, par Madame Lee.
Mais il y a eu le fameux restaurant de Jean-Luc Delarue.
Oui. Ouais, non, le Corva.
Mais parce qu'à ce moment-là, c'est quand ces stars-là les ouvrent, j'imagine qu'elles sont dans la gestion, mais est-ce qu'elles prennent part à la...
Et la spécialité du Corva, c'était quand même le poulet au Coca-Cola, il faut le dire. Recette de Frédéric Grasser-Hermé, que je ne cautionne pas non plus.
C'est marrant parce que j'ai une amie, une copine philippine, enfin originaire des Philippines, ses parents sont de là-bas, qui elle-même a ouvert voilà, un petit service de traiteur, de restauration. Très bon d'ailleurs, si vous voulez tester, ça s'appelle Kainan, K-A-I-N-A-N. Et elle m'a dit que sa mère cuisinait parfois au Sprite, qu'elle faisait notamment ce qu'on appelle le adobo. Donc c'est une viande, ça peut être porc ou poulet mariné longtemps. Et elle le fait au Sprite et du coup ça ajoute en fait un petit côté sucré et salé.
C'est une limonade quoi en fait.
Bah ouais, mais en fait elle l'incorpore au moment de la cuisson et de la marinade aussi avant. Donc ça doit avoir un effet. Tout comme le poulet coca, ouais, parfois il y a des mix comme ça.
Il y avait le tiramisu chez Jean-Luc Delarue, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Chamallow.
Oui,
ça doit être bon ça.
Il y avait quelques, mais j'y étais le jour d'ouverture pour un magazine qui s'appelle Paris Capital, pour lequel je travaille toujours. Ouais. J'y étais le jour de l'ouverture et il y avait 6 ou 7 critiques gastronomiques dans la salle et tout le monde se regardait du coin de l'œil, genre qui va être le premier à sortir son papier parce que c'était très attendu.
Mm-hmm.
C'était très attendu. Il y avait
Verdict,
il y avait un casting, il y avait Jean-Luc Delarue qui finançait, il y avait Jean-Yves Bouvier qui était un ancien directeur des Bains Douches qui était directeur artistique, Frédéric Grasser-Hermé qui à l'époque je crois était encore l'épouse de Pierre Hermé qui avait fait la carte. Enfin voilà, il y avait un petit casting quand même.
Mm. Bon.
En tout cas, on parlait du Sprite. Dans votre livre, il y a une recette qui va cartonner pendant le mois du Ramadan, c'est votre limonade.
Ouais.
Qui est au gingembre.
Oui, tout à fait. Gingembre, menthe, citron jaune, citron vert. C'est vraiment une explosion de fraîcheur, quoi.
Ça, et moi, c'est bien, ça.
Ouais, et c'est vraiment... Alors, je l'ai mis dans le chapitre 4.
Ouais, elle va cartonner pendant le mois du Ramadan, je peux vous assurer.
Ah, ouais. J'espère.
Ouais, elle est super, cette limonade. Elle est vraiment bien.
On va vous faire venir peut-être pour des recettes pendant le Ramadan aussi.
Ah, bah, avec grand plaisir. Alors, là,
parce que le gingembre, ça change tout, en fait.
Oui.
Parce qu'on connaît la version citron menthe.
Ouais. Mais une touche de gingembre, et c'est vrai que ça amène du goût. C'est quand même un... Ça amène de la tonicité. Je ne sais pas si c'est que dans la tête ou si c'est vraiment avéré. Mais moi, je me prends une boisson même. J'aime bien me faire juste du gingembre râpé dans de l'eau chaude. Dès que je me sens un petit peu patraque, et c'est hyper efficace.
Et puis le gingembre, ça a des petites saveurs citronnées. Donc ça se marie très bien avec les agrumes. Ouais.
Ouais.
Bon, on fait un métier difficile dans un instant. On va goûter le brownie
avec
Maître Boily. Et on vous dira ce qu'on en pense.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et nous sommes après la dégustation du brownies au chocolat qu'on l'a pas fait en direct parce qu'après c'est compliqué, mais...
Moi j'ai la bouche encore pleine.
C'est vrai.
Ouais. Moi, c'est pas grave, non, il m'en reste
sur
à votre
les
place.
Doigts finalement.
Oui, vous avez mangé comme un petit cochon, Philippe. Hein.
Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que le manger, c'est aussi prendre du plaisir. Mm. Et manger avec les doigts, il y en a partout.
Non, mais en tous les cas, très bon. On a testé donc le brownies, la recette du livre Food Moods.
Ça me ravit, messieurs.
Et c'est très bien. Le brownies croustille un peu sur le dessus, mais ils font bien à l'intérieur. Et il n'est pas trop sucré, parce que moi, je ne suis pas un grand fan de sucre. Donc ça va, c'est parfait.
C'est validé.
Et puis on part. En plus, c'est un dessert super économique. Hein. On a fait le calcul plus ou moins pour 8 personnes. On en a pour 3,50 €, quoi.
Oui.
En gros.
Que des basiques du placard.
Alors vous parlez dans votre livre d'un revival sur la chouchouka. Qu'est-ce qui s'est passé sur la chouchouka? Parce que nous, c'est un peu notre basique, la chouchouka.
Ouais,
donc
ouais.
On l'a pas senti. Ça veut dire que ça s'est diffusé dans l'ensemble de la société française?
Bah moi j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça fait partie de ces plats qui, de par les réseaux sociaux d'une part, donc Instagram, moi je suis pas trop sur TikTok, mais peut-être que ça y est aussi, mais de par les réseaux sociaux et de par aussi, j'ai l'impression, à Paris notamment, mais c'est peut-être le cas dans plein d'autres villes,
que ça s'est diffusé.
Que ça s'est diffusé, que la cuisine levantine. C'est diffusé, j'ai l'impression. Et pour moi, par exemple, la chakchouka ou chouchouka, je crois qu'il y a plusieurs.
Oui, on l'appelle. En tout cas, c'est bon.
En tout cas, c'est bon. J'ai l'impression que ça s'est vraiment... Enfin, c'est un plat qu'on ne voyait pas il y a quelques années, non
Non, c'est pour ça que je vous dis, nous, c'est un peu notre base.
Bien sûr.
Mais moi, je n'avais pas vu à quel point ça s'est...
Parce que, ça s'était diffusé.
Parce qu'on parle beaucoup de couscous. La chorba qui commence aussi à sortir un petit peu, qui devient populaire hein, dans toutes les couches de la société. La harira également, qui a voyagé. Mais la chouchouka aussi, donc...
Oui, et donc moi, j'en propose une recette simple et facile. Et qui est dans le dernier chapitre, donc le fameux « Je vais à la salle », parce que ça a aussi le mérite d'être une recette très équilibrée quand même.
Oui, parce qu'on l'attendait dans Voyage, Voyage.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai nommée « Chakchouk » à peu près, parce qu'elle n'est pas vraiment faite dans les règles.
Vous l'avez légèrement allégée, c'est ça?
C'est ça, et puis elle est faite un peu avec moi, mes petits basiques du placard, ou si je veux me faire quelque chose de simple après le sport, n'est-ce pas? mais en effet, c'est vraiment une recette qui aurait pu être dans Voyage Voyage aussi.
C'est bon réchauffé, la chouchouka. Hein. Plus c'est réchauffé, meilleur c'est.
Bien sûr.
Comme plein de plats, hein. C'est vrai que quand on...
Avec
on
du pain de la veille qui est un petit peu... Qu'on fait juste griller comme ça,
tu un peu de chouchouka dessus. Et roule Albert. Hein.
Ouais. Alors, on parlait de Voyage Voyage, il y a un plat que vous proposez... qu'on adore manger au restaurant mais qu'on ne fait jamais chez soi, c'est le fameux butter chicken.
Ah oui, tout à fait.
Ça, c'est un emblème de la cuisine indienne.
Ouais, tout à fait. Et en fait, le butter chicken, j'ai vraiment eu envie de le faire et puis de m'approprier un peu une recette et donc d'en proposer une pendant cette sombre période du confinement, premier du nom, où on a tous été chez nous et puis un petit peu plus enclin à cuisiner. Et je me suis dit, oh là là, mais là, j'ai trop envie d'un butter chicken, mais comment est-ce que je peux le faire en fait? Et je trouve que c'est une bonne recette à savoir. Faire soi-même et puis à proposer à des invités aussi, pourquoi pas. C'est franchement pas très compliqué à faire et tellement goûtu, tellement bon.
Oui, et puis c'est de la vraie cuisine indienne hein, parce que souvent les gens vont au restaurant indien, ils mangent plein de trucs et en fait ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils mangent de la cuisine pakistanaise principalement ou de la cuisine du Punjab. Mais c'est vrai que le butter chicken, c'est un vrai plat indien qui vient de New Delhi. Donc ça, c'est de la
vraie cuisine. Alors pourquoi ça s'appelle butter chicken?
Le beurre a une importance dedans. Ouais. Il est en fait, nous, c'est vrai qu'en France, le beurre a une sacrée importance dans beaucoup de plats. Et bien, dans la cuisine indienne, en l'occurrence, et là, dans le butter chicken, il y a présence de beurre pour en fait donner une sauce bien crémeuse. C'est ce qui y participe.
Ouais, alors c'est un beurre particulier. Hein. C'est le ghee qui est un beurre un petit peu rance, un petit peu fermenté, comme le smen qu'on trouve au Maghreb. Et donc ça donne un côté effectivement onctueux à la sauce, avec une petite pointe d'acidité pour contrecarrer le côté très très sirupeux et très capiteux de la sauce.
Ouais, c'est bon le butter chicken.
Alors d'ailleurs vous le faites, j'ai pas regardé, vous le faites avec des filets de blanc de poulet, oui, parce que vrai que ça faut faire très attention à la cuisson quand on le fait avec du filet de blanc de poulet, mais sinon si on a le temps. Je donne mon petit truc à moi, c'est de le faire avec des cuisses de poulet qu'on désosse, on enlève la peau, on désosse. Et là, on peut le laisser cuire un petit peu plus longtemps, ça restera toujours super tendre.
Très tendre, ouais. Ouais, j'avoue, ça c'est une très bonne option, je pense. Moi, c'est vrai que je le fais avec du blanc de poulet, un peu par practicité.
Oui, non, mais de toute façon, votre livre, c'est vrai que c'est un livre de cuisine de tous les jours, quoi.
Oui, totalement.
Donc c'est vrai que tous les ingrédients que vous avez dans votre livre, on les trouve à la supérette en bas de la maison. On n'est pas obligé d'aller à l'hypermarché pour trouver tel truc ou tel truc.
Normalement, Les seules petites, peut-être, exceptions, ça pourrait se trouver dans le chapitre Voyage-Voyage.
Oui, il y a des épices, c'est ça.
Il y a des épices ou des produits un petit peu divers. Et encore que, je pense que maintenant, on peut trouver beaucoup de choses à portée de main.
Moi, ce qui m'a réconcilié avec cette cuisine dont on parlait tout à l'heure, c'est l'œuf mimosa.
Ah ouais, qu'est-ce que j'aime ça.
C'est bon, l'œuf mimosa.
Ouais, c'est trop bon.
C'est simple, un œuf mimosa.
Et alors, un plat qui revient à la mode dans les restaurants maintenant et qu'on ne trouvait plus depuis les années 70 sur les cartes des restaurants, c'est le poireau mimosa.
Ah oui.
Ouais, parce que dans les années 60-70, on faisait énormément de poireaux mimosa. Donc des poireaux type vinaigrette. D'ailleurs, souvent, même au restaurant, quand on commandait des poireaux vinaigrettes, on servait des poireaux mimosa. Donc des poireaux vinaigrettes avec de l'œuf mimosa dessus.
C'est
très très bon. Ouais, c'est très très bon.
Qui est le chef qui a ouvert ce restaurant qui s'appelle Mimosa, d'ailleurs, Manu?
Très bonne question, je ne m'en souviens plus. Mais
Il y a un grand chef qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Mimosa il n'y a pas très longtemps.
Oui, mais
on parlait des souvenirs de cantine. Moi, je me souviens des triangles en chocolat. Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Ah non.
Manu, vous avez connu ça, les triangles? Vous savez, ces espèces de gaufrettes en chocolat?
Oui, mais alors ça, c'est pas. Je veux dire, c'est pas. Enfin, vous savez que moi, le sucré, c'est pas trop mon truc.
Non,
mais
bon.
Ouais.
Oui, alors le Mimosa, voilà, c'est rue du Pont-Neuf. Et c'est vous parlez de l'hôtel de la Marine, non, c'est Jean-François Piège.
À l'hôtel de la Marine.
Non, parce qu'avant il y avait le Mimosa donc rue du Pont-Neuf qui avait remis un petit peu au goût du jour le Mimosa, mais qui est une brasserie on va dire un peu améliorée. Et puis là vous parlez du Mimosa effectivement de Jean-François Piège à l'hôtel de la Marine.
D'accord. Mais ouais, c'est vrai que les œufs Mimosa, ça c'est quelque chose j'ai voulu le mettre parce que je me suis dit quand on reçoit, c'est dans le chapitre sur la convivialité, quand on reçoit c'est sympa de se faire toute une belle quantité quoi d'œufs durs, de faire une bonne mayo maison, c'est pas si compliqué et ça fait son petit effet quand même les œufs Mimosa voilà qu'on va piquer dans un grand plat et d'ailleurs moi je m'arrête pas. Franchement les œufs Mimosa c'est le genre de truc si j'en mange un, j'en mange 5.
Ouais, alors j'ai souvent ça c'est le truc qu'on me demande le plus souvent par SMS en last minute, c'est oh là là, j'ai plus de mayo, il faut que j'en fasse une maison, comment on fait?
Ouais.
Et il y a un truc qui est très simple, c'est que on prend un œuf, hein, au lieu de mettre juste le jaune, on le met entier dans un verre doseur et on prend le mixeur plongeant.
Ouais.
On mixe ça avec un petit peu de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre. On rajoute l'huile, on peut mettre toute l'huile d'un coup, hein, et on remixe un coup, et ça fait une mayonnaise magnifique.
C'est vrai?
Même quand on ne sait pas la faire. Ah là là. Pas du tout.
Ah bah c'est top ça, j'essaierai.
Voilà, donc arrêtez de m'envoyer des SMS.
La mayo de la flemme. Du
c'est
coup.
Ça. On pourrait la mettre dans la flemme.
Ou alors vous devriez la faire et la livrer, Manu.
Bien sûr. SOS mayonnaise.
Non, vous
ou sinon, je vais
tonton mayonnaise.
Je vais faire une recette de Rosta, la mayonnaise de Manu.
Voilà.
On va la tester. Voilà.
Oui, enfin bon, Rosta.
Vous avez fait son week-end, hein.
Ouais.
Mais je vais l'essayer, ça m'intrigue parce que moi j'adore la mayonnaise, mais souvent j'ai la flemme de
non,
la.
Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors si on en fait beaucoup, on met qu'une seule fois le blanc, après on rajoute que des jaunes.
D'accord.
Mais pour faire une mayonnaise rapide avec le mixeur plongeant, avec la girafe comme on dit en cuisine, c'est imparable.
Et vous la faites à l'huile d'olive vous ou l'huile tournesol plus neutre?
Moi j'aime bien faire moitié moitié ou deux tiers un tiers, mais 100% à l'huile d'olive.
C'est un peu fort.
Ouais, c'est un petit peu fort.
Ouais, je suis d'accord.
Ou alors je mets plein d'ail.
Un peu âpre. Ouais.
Mais après on part plus dans un aïe olive.
Vous revisitez le gratin de coquillettes à l'américaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus?
Alors, en fait, je suis partie un peu aussi, parce que je vois beaucoup de mac and cheese, vous savez, en recettes. Alors, j'en ai testé, d'ailleurs, plusieurs recettes, dont celle de Snoop Dogg aussi. on en revient à lui.
Ça, c'est les Américains, ils adorent ça.
Ouais, mais alors,
la différence entre le mac and cheese et le gratin de coquillettes, c'est 8000 calories à peu près, quand même.
Voilà,
hein, parce que...
et surtout, en fait, je crois que c'est vraiment au goût des Américains, parce que je vois pas trop le délire finalement sur le mac and cheese. C'est très lourd, les pâtes sont surcuites, donc c'est pas très intéressant.
Pic de glycémie, alors
le fromage commence à devenir un petit peu
pâteux. Je me suis dit, on perd le plaisir forcément du filament ou autre. Et moi, je me suis dit, dans les gratins que j'ai connus, en tout cas moi dans mon enfance, c'est vraiment le plaisir de l'équilibre. Et les coquillettes, c'est la pâte régressive par excellence. Je pense qu'on l'a tous eu quand on était petit, et donc je propose un bon vrai gratin de coquillettes.
Et là aussi, c'est pas cher, hein. On peut y aller.
Ah non, là on peut y aller. Là,
oui, d'ailleurs, il n'y a pas de plat très cher. C'est vraiment quel que soit le mood, hein, quelle que soit l'humeur. Il y a que des plats vraiment très très accessibles.
Tout à fait. Oui, c'est important pour moi. Encore une fois, je trouve que la cuisine, c'est un acte du quotidien, et du coup, ça doit aller pour toutes les bourses, tous les budgets.
Manu, alors le livre
Alors le livre, c'est Food Moods, 5 ambiances, 80 recettes, c'est aux éditions Webedia. Ça vaut 19,90.
Ah bon,
80 recettes, faites le calcul, hein. Ça fait pas cher la recette. Et en plus, ce sont des recettes vraiment économiques, donc c'est un très bon investissement. Voilà, et vous pourrez même faire vos crèmes au café façon Danette vous-même, vous n'aurez plus besoin d'acheter de la Danette au café.
Il ne fallait pas le dire que c'était Danette.
Non mais c'est véridique. Hein,
non, c'est écrit dans le livre. Ouais. Hein, c'est écrit comme ça dans le livre.
Non, je l'assume, c'est dit. Parce que j'adore, j'adore cette crème au café. Et là, c'est vraiment une recette maison. Mais honnêtement, pour moi, ça a le même goût. je me mouille, je le dis.
Voilà, et puis si vous voulez suivre les recettes de Noémie sur les réseaux sociaux, vous tapez Noémie Bourrier sur Instagram.
Merci.
Je vous ai cherché sur Facebook, je vous ai pas trouvé.
Ah oui, c'est vrai, ouais, j'y suis plus trop.
Ouais.
J'y suis plus trop. Bah ouais.
Mais sur Instagram, on vous trouve facilement, donc Noémie Bourrier, B-O-U-2-R-I-E-R. Et
non, c'est I-E.
IE, accent aigu,
du coup sur Instagram j'ai pas d'accent.
Mais oui, je vous ai...
ça m'a rappelé des souvenirs d'école. Bourrier Noémie.
Ben voilà, vous la trouvez facilement sur les réseaux sociaux et comme ça vous découvrez un petit peu son univers, ses podcasts aussi, Métropolite.
Ouais, tout à fait, EAT à la fin.
Voilà, EAT. De toute façon, on mettra tout ça sur la page du replay en milieu de semaine prochaine.
Voilà, et puis vous verrez la diffusion de l'émission qui a été filmée sur nos réseaux.
Sur YouTube.
Sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end et à samedi prochain.
À samedi. Merci.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.